Article 5. Kenya, le cou sanglant d'un héritage empoisonné. Il avait fallu 2 mois de violence, des milliers de blessés et des centaines de milliers de réfugiés avant que le PNU, parti de l'unité nationale, du président sortant Mwai Kibaki, et l'ODM, mouvement démocratique orange, de son rival, Raila Odinga, parviennent à se mettre d'accord sur les suites à donner à l'élection présidentielle du 27 décembre 2007, dont Kibaki n'avait pu sortir victorieux que grâce à des fraudes systématiques. Après cet accord du 29 février, il aura fallu encore 6 semaines de marchandages supplémentaires, ponctués d'émeutes brutalement réprimées, pour que soit formé le 13 avril un gouvernement d'union nationale incarnant le partage du pouvoir entre les protagonistes. Face à de tels événements dans un pays que Washington citait volontiers en modèle, tant pour sa stabilité politique que pour son obéissance aux exigences du FMI et de la Banque mondiale, l'impérialisme américain fut d'abord pris à contre-pied en commettant la bévue d'entériner sans attendre l'élection de Kibaki. L'ambassadeur des États-Unis au Kenya alla même jusqu'à parler de citation « modèle pour les démocraties du monde entier ». Fin de citation. Mais après 2 mois de confrontation sanglante, Condoleezza Rice fut finalement dépêchée dans la région pour intimer aux protagonistes l'ordre de mettre un terme au désordre. Dans le même temps, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et le président tanzanien, Jakaya Kikwete, se chargeaient de présider aux négociations. On pouvait donc s'attendre à ce que les porte-paroles habituels de la « communauté internationale », entre guillemets, en particulier les leaders américains et anglais, Bush et Brown, se félicitent bruyamment du succès qu'aurait enregistré la démocratie au Kenya après le 13 avril. Qu'importe pour eux que le coût du règlement entre les deux camps rivaux se chiffre en milliers de morts et de blessés dans les rangs anonymes des masses pauvres et en centaines de milliers de réfugiés. Kibaki, le fraudeur, et Odinga, dont le parti avait remporté les élections législatives qui se déroulaient en même temps, gouverneront donc ensemble après s'être accusés mutuellement des pires crimes et avoir encouragé leurs partisans à châtier leurs adversaires. Tandis que Kibaki conserve formellement la présidence qu'il aurait dû perdre après le 27 décembre, Odinga se voit promu à un poste de premier ministre taillé sur mesure avec des pouvoirs quasi présidentiels. Quant aux 38 Marocains restants, qui font de ce gouvernement l'un des plus pléthoriques d'Afrique subsaharienne, ils reflètent le soigneux dosage effectué pour satisfaire les hommes forts des deux camps. La formation de ce gouvernement marquera-t-elle la fin des violences? L'avenir le dira. Mais on peut craindre que le fossé creusé par les flots de sang versés au cours des derniers mois sera difficile à combler. Quant aux rivalités politiciennes, elles restent tout aussi menaçantes, même si elles sont temporairement en partie masquées par l'alliance PNU-ODM. Comme toujours lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la presse occidentale a eu vite fait de mettre les violences qui se sont déroulées au Kenya au compte de tensions ethniques traditionnelles, comme si une sorte de malédiction ancestrale pesait sur les populations africaines. Mais la réalité est en fait bien plus compliquée. Et surtout, c'est une réalité qui est beaucoup plus inconfortable pour la conscience des pays riches, d'autant plus qu'après 70 ans de colonisation britannique et 8 ans d'une guerre sanglante pour son indépendance, le Kenya était devenu l'un des piliers du dispositif stratégique régional de l'impérialisme américain. Car ces tensions s'alimentent de facteurs tout ce qu'il y a de plus moderne, parmi lesquels l'appauvrissement croissant du continent africain dû à son pillage par l'impérialisme et à la démagogie de politiciens locaux qui, bien souvent, représentent en même temps les intérêts de tel ou tel impérialisme ou trust multinational. C'est dans cette combinaison de facteurs qui ont été reproduits et amplifiés au cours des décennies depuis l'époque de la domination coloniale britannique et après l'indépendance du pays que doivent être recherchées les causes des affrontements récents. Ce que les cartes postales ne montrent pas. Le Kenya est un pays géographiquement divers, à peine plus grand que la France, situé sur la côte est de l'Afrique, au niveau de l'équateur, mitoyen du Tchad, de l'Éthiopie et de la Somalie au nord, de la Tanzanie au sud et de l'Ouganda à l'est. Il joue un rôle stratégique régional grâce au port de Mombasa et au chemin de fer du même nom qui, depuis 1902, constitue l'unique voie de communication vers la mer réellement viable pour l'Afrique des Grands Lacs, l'Est congolais et le Sud soudanais. Les 37 millions de Kenyans comptent plusieurs dizaines de groupes ethniques, dont bon nombre existent également dans les pays voisins. Pour ne citer que les plus importants, on estime que l'ethnie la plus nombreuse, celle des Kikuyus, qui est originaire du centre du pays, représente 22% de la population, celle des Luyas 14%, celle des Luos, originaire de la région du lac Victoria 13%, et celle des Kalenjins, en fait un regroupement artificiel de plusieurs ethnies créées par les Anglais dans la vallée du Rift, 11%. À quoi il faut ajouter de nombreux groupes et sous-groupes qui partagent la langue, sinon la totalité des traditions de l'un ou l'autre des groupes principaux. Les hauts plateaux du centre s'appelaient autrefois les hauts plateaux blancs parce qu'ils avaient été occupés par les colons blancs, principalement anglais, après que la Grande-Bretagne eut formellement fait du Kenya une colonie anglaise en 1888. Les colons avaient également occupé la vallée du Rift, dont on dit qu'elle est l'une des plus fertiles de toute l'Afrique, et où se trouvent encore aujourd'hui la plupart des fermes, grandes et petites. Nombre de grandes entreprises étrangères ont acquis des intérêts dans l'agriculture à fort rendement de la vallée du Rift, comme les groupes de thé Brook Bond, George Williamson et James Finlay, mais aussi le Trust Unilever. L'essentiel de la population kényane est concentré dans les provinces fertiles du centre et de l'ouest du pays, et dans une moindre mesure dans la région côtière, en particulier autour du port de Mombasa. Partout, l'infrastructure est notoirement insuffisante, à l'exception des chemins de fer. Nombre de villes et de villages sont d'ailleurs regroupés le long du réseau de chemins de fer de Mombasa, et les principaux axes routiers sont parallèles à ces voies. Bien que l'économie kényane ait été surtout confinée à l'agriculture industrielle d'exportation, dont celle du thé, du café, mais aussi des fleurs et du pyrètre, plante dont on tire un insecticide naturel puissant, dont le Kenya est le premier producteur mondial. Couplés à une industrie agroalimentaire de base, le pays est la plaque tournante commerciale et financière de l'Est africain. Le fait que le produit intérieur brut du pays ait connu une croissance annuelle de 6,3% depuis que Mwai Kibaki est arrivé au pouvoir en 2002 peut passer pour un progrès notable après les nombreuses années de déclin économique qui avaient précédé. Mais les observateurs s'accordent à reconnaître que cette croissance n'a rien fait pour réduire la pauvreté de la population, alors que les riches, eux, sont devenus encore plus riches. La bourse de Nairobi, la capitale kényane, peut bien connaître une activité fiévreuse, tandis que les casinos prospèrent à côté du luxe des clubs de golf, mais le véritable visage du Kenya n'a rien à voir avec les photos de paysages spectaculaires, de scènes de guerriers Maasai en costume traditionnel ou de safari que présentent les brochures des agences de voyage. Car, comme le note l'hebdomadaire britannique The Economist, citation, « Tout près du Karen Club, un club de golf de Nairobi où frayent les politiciens de tout poil et les membres de la haute bourgeoisie kényane, note de LDC, se trouve Kibera, un bidonville où s'entassent 500 000 de pauvres sur un emplacement à peine plus grand qu'un terrain de golf de 18 trous. » Fin de citation. Les deux tiers de la population de Nairobi s'entassent sur tout juste 8% de la surface urbanisée dans ce qu'on appelle des logements informels, un euphémisme hypocrite pour désigner des cahutes faites de carton et de tôle ondulée, sans eau, potable ou pas, ni sanitaire, sans même parler, bien sûr, des salles de bain et cuisines qui font partie de l'environnement standard des pays riches. Mais comme 2 Kényans sur 3 doivent survivre avec moins de 1 dollar par jour et que la situation s'aggrave dans les zones rurales, les paysans sans terre et les chômeurs des campagnes continuent à affluer vers les taudis de Nairobi. Avant même les élections de 2007, la Commission kényane des droits de l'homme rapportait que la police avait été impliquée dans les assassinats extrajudiciaires de près de 500 jeunes au cours des 12 mois précédents, tous originaires des bidonvilles de Kibera et Matar à Nairobi. De toute évidence, la police avait pour politique de tirer sur les pauvres sans autre forme de procès. Et ce n'est pas par hasard si c'est justement à Kibera et à Matar que des cahutes ont été brûlées au cours des affrontements récents. Quant aux Maasai heureux, si souvent présentés comme une attraction touristique du Kenya, Kibaki a montré à quel point il les méprisait en ignorant une pétition dans laquelle les Maasai réclamaient que soit reconnu leur droit de retourner sur leurs terres, cédé aux Anglais en 1904 dans le cadre d'un bail de 100 ans désormais échu. L'éviction des Kikuyus. Les médias ont rapporté comment les Kikuyus furent les premiers à être pris pour cible dans les émeutes qui ont suivi les élections de décembre 2007 par des gens qui les accusaient d'avoir voté pour Kibaki ou d'être favorisés par son régime. Il est un fait qu'au cours de la période précédant les élections, les politiciens d'opposition accusèrent le gouvernement d'organiser une hégémonie Kikuyu sur le pays. Mais si ces politiciens ont pu se permettre de jouer ainsi la carte de l'ethnisme, c'est parce que le paysage politique kényan a été, en général, dominé par des politiciens Kikuyu, en partie du fait de l'importance relative de cette ethnie dans la population, mais surtout du fait de circonstances géographiques et historiques dont les Kikuyu ne sont en rien responsables. Au début du XXe siècle, ce furent les Kikuyu qui souffrirent le plus de l'invasion des hauts plateaux du centre, situés en territoire traditionnel Kikuyu, par les colons anglais. Tandis qu'un million de Kikuyu furent relégués dans un millier de kilomètres carrés, les colons anglais occupèrent 4500 kilomètres carrés, alors que leur nombre ne dépassa jamais quelques dizaines de milliers. Certains Kikuyu sans terre allèrent s'embaucher comme journaliers dans les fermes blanches, d'autres furent tolérés sur leurs anciennes terres en tant que squatteurs. Comme l'essentiel des terres allouées aux colons n'était pas cultivé ni même utilisé, des dizaines de milliers de squatteurs réussirent à obtenir un statut de locataires informels, dont le caractère était néanmoins temporaire et sujet aux humeurs du propriétaire blanc. On les traitait durement et leur situation devint de plus en plus précaire avec le temps. Ce furent donc les Kikuyu qui se trouvèrent tout naturellement en opposition directe avec les occupants anglais et qui, les premiers, développèrent leurs propres organisations pour protester et résister. Une crise finit par éclater à la fin des années 40 avec l'insurrection des Mau Mau. L'armée des sans-terre et des masses laborieuses et pauvres de Nairobi, dont les membres faisaient le serment de lutter pour leur propre indépendance, qu'ils désignaient sous le nom de Uhuru, pour leur terre et leur liberté. On fit beaucoup de bruit autour des cérémonies secrètes au cours desquelles les nouveaux adhérents prêtaient serment. Mais comment auraient-ils pu s'organiser, sinon de façon clandestine, alors qu'ils étaient en situation de quasi-servage, dans les faits, prisonniers sur leur propre terre. Quant à l'usage du serment, n'était-il pas une pratique courante dans les premiers temps du mouvement ouvrier des pays riches, dans des périodes où les syndicats étaient contraints de s'organiser en secret, de peur d'être trahis? Or, au Kenya, où la moindre expression de résistance au régime colonial pouvait valoir aux coupables une bastonnade, la torture, voire la mort par pendaison, le risque de trahison par des informateurs était d'autant plus grand. On estime qu'au début des années 50, la quasi-totalité des Kikuyu pauvres et l'essentiel de la classe ouvrière de Nairobi, même si cette dernière n'était pas exclusivement Kikuyu, ainsi qu'une forte proportion des squatteurs Kikuyu des campagnes, avaient prêté le serment Mau Mau et payé les cotisations auxquelles cela les engageait. Comme toute la population des taudis urbains subissait la même oppression, toutes ethnies confondues, la plupart s'engageaient volontiers dans les rangs des Mau Mau. Néanmoins, face au progrès des Mau Mau, les autorités britanniques en vinrent à emprisonner tous ceux qu'elles soupçonnaient d'avoir prêté serment, et nombre d'entre eux furent pendus pour ce seul crime. Les Britanniques boutaient hors du Kenya. Initialement, les fermiers blancs ne furent pas choisis comme cible principale par les Mau Mau. À leurs yeux, le principal problème était l'existence d'une couche de Kikuyu loyalistes que les autorités coloniales avaient achetés pour quelques miettes afin de gagner leur soutien, en leur donnant un peu de terre ou des responsabilités locales dans des réserves spécialement créées dans ce but. Ces loyalistes formaient une garde armée spéciale contre les Mau Mau et servaient de tampon entre les sans-terre et les colonisateurs britanniques. Pour les Mau Mau, on ne pouvait envisager de jeter les Anglais à la mer qu'à condition de régler d'abord leur compte à ces loyalistes relativement mieux lotis. Contrairement à une certaine mythologie, les Mau Mau ne tuèrent qu'un très petit nombre de fermiers blancs, 32 en tout et pour tout, sur une période de 8 ans, entre 52 et 60. En revanche, 1819 civils africains furent assassinés par les Mau Mau durant la même période, soit parce qu'ils servaient dans le Home Guard britannique, soit parce qu'ils apparaissaient pro-anglais. Mais ce furent les Mau Mau eux-mêmes qui eurent le plus grand nombre de victimes, particulièrement vers la fin de cette période, lorsqu'ils durent faire face à des opérations de grande envergure de la part de l'armée britannique, avec un nombre total de victimes probablement proche des 30 000. La guerre des Mau Mau revêtit initialement un caractère social opposant au sein même des rangs Kikuyu l'armée des pauvres et des sans-terre aux propriétaires plus aisés, privilégiés et pro-anglais. Plus tard, les combattants Mau Mau formèrent des armées de la terre et de la liberté qui allèrent s'installer et s'entraîner dans des camps forestiers sur les pentes du mont Kenya et dans le massif d'Aberdare. Leurs cadres avaient souvent combattu durant la Seconde Guerre mondiale et après dans des régiments comme celui des Kings African Rifles, tel était le cas en particulier du fameux général China qui avait combattu en Birmanie. Ce qui est moins connu à propos des Mau Mau, c'est le rôle qu'y joua le prolétariat de Nairobi. Ceux qui furent à l'origine des premiers syndicats, comme Fred Kubay et Bildad Kadja, furent également connus pour leur rôle dans le mouvement des Mau Mau. Lorsque Nairobi se vit accorder le statut légal de cité par le roi George en 1950, les ouvriers de la ville organisèrent une grève générale de 8 jours, paralysant ainsi la toute dernière née des villes de l'Empire. Chaque matin, des foules énormes de grévistes tenaient meeting avant d'envahir les rues où ils tenaient tête au gaz lacrymogène de la police. Les revendications des grévistes étaient simples: l'autonomie immédiate, du maïs à bon marché et des hausses de salaire. Les taudis ouvriers étaient surpeuplés et les chômeurs y étaient bien plus nombreux que ceux qui avaient un emploi. En 1946, il y avait 65 000 chômeurs à Nairobi, contre environ 30 000 salariés dans la petite industrie et le commerce. La quasi-totalité de ces prolétaires firent le serment Mau Mau à un moment ou un autre et ils poursuivirent la lutte avec leurs armes, la grève et le boycott, boycott des bus ou de certains produits par exemple. Finalement, en 1954, les autorités britanniques déclenchèrent l'opération Anvil ou opération Enclume, ce qui disait tout sur leur objectif d'écraser toute résistance. Les quartiers ouvriers furent encerclés et un système rigoureux de permis de circulation fut introduit afin de permettre à la police de savoir exactement qui sortait ou entrait des zones visées par l'opération. Des milliers d'ouvriers furent arrêtés et des milliers d'autres furent expulsés de Nairobi pour n'avoir pu produire le permis de circulation voulu. Le régime colonial lança une campagne de villégiaturisation forcée, au cours de laquelle 1,1 million de squatteurs, Kikuyu, furent de fait emprisonnés dans 854 villages en l'espace de 15 mois, des villages entourés de barbelés qui avaient tout du camp de concentration. Mais rien de tout cela ne parvint à empêcher la guérilla Mau Mau de continuer ses opérations et de pénétrer régulièrement les défenses britanniques, libérant les prisonniers et mettant la main sur toutes les armes qu'elle pouvait trouver. Le fait est que, malgré la brutalité des mesures répressives contre les Kikuyu, soupçonnés d'aider les rebelles, malgré les pendaisons sommaires de combattants et les tortures qu'on leur faisait subir, et malgré les restrictions au déplacement des personnes, ou peut-être bien à cause de tout cela, les Mau Mau ne cessèrent jamais de bénéficier du soutien populaire sans lequel ils n'auraient jamais pu survivre, et encore moins poursuivre leurs opérations militaires. Cette politique répressive fut un échec, comme le fut l'offensive militaire. Entre la déclaration de l'état d'urgence en octobre 1952 et la proclamation de l'amnistie pour les Mau Mau en janvier 1955, 12 bataillons de l'armée britannique furent mobilisés pour tenter de vaincre les quelques 20 000 combattants des armées Mau Mau. Ceux-ci étaient organisés en armées de quelques milliers d'hommes, chacune sous la direction de plusieurs généraux. Même les bombes incendiaires de la RAF furent impuissantes à déloger les combattants. À tel point qu'en 1964, on vit émerger de sa cachette un contingent d'un millier de combattants en armes qui avaient tenu bon pendant 12 ans dans la forêt, conformément au serment Mau Mau, par lequel ils s'étaient engagés à ne jamais abandonner tant que l'indépendance n'aurait pas été obtenue. Au total, on estime que 150 000 Mau Mau ou sympathisants furent enfermés dans des camps pendant l'ensemble de la guerre. Ces camps, surpeuplés, n'avaient aucune installation sanitaire, et dans l'un des plus célèbres, le camp de Magnani, où furent jetés les ouvriers de Nairobi arrêtés lors de l'opération Anneville, une épidémie de typhoïde toucha plus d'un millier de prisonniers et fit 115 victimes. D'autres souffrirent de pélagre et autres maladies dues au manque de vitamines. En revanche, les tentatives de l'administration d'imposer des travaux forcés aux prisonniers se heurtèrent à une résistance aussi opiniâtre qu'organisée et durent être abandonnées. En 60-61, 5 ans après la défaite supposée des Mau Mau, qui avait justifié l'amnistie de 55, les autorités britanniques continuaient à se heurter à des rébellions systématiques dans les zones de repeuplement forcé, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas assez de terres pour tout le monde. Les squatteurs expulsés des terres des fermiers blancs revenaient les réoccuper et il devint très vite évident qu'il serait impossible de maintenir un contrôle réel sur la population de la colonie sans y consacrer des ressources considérables et surtout très coûteuses. Mais en 60, le premier ministre britannique Harold Macmillan avait déjà lancé la deuxième vague de la décolonisation britannique, après celle de l'après-guerre, dans un fameux discours annonçant un vent de changement. Et au Kenya, comme dans d'autres colonies où il se trouvait en difficulté, l'État britannique entreprit de rechercher une stratégie de sortie. Les Britanniques choisissent Jomo Kenyatta. Dans le cas du Kenya, il s'agissait de nommer des membres de l'élite loyaliste Kikuyu au gouvernement afin de préparer le terrain à la passation des pouvoirs au profit de la nouvelle bourgeoisie kenyane, elle aussi essentiellement Kikuyu, puisque formée de loyalistes anti-Mau Mau. À cette élite loyaliste, on chercha néanmoins à adjoindre une pincée de leader Mau Mau, libéré puis réhabilité, faute de quoi le nouveau régime serait dépourvu de toute crédibilité dans la population. Ce fut en fonction de ces impératifs que fut choisi le futur président du Kenya « indépendant » entre guillemets, Jomo Kenyatta. Intellectuel brillant, Kenyatta avait rejoint l'association centrale Kikuyu, KCA, à la fin des années 20. Bien que la KCA ait été organisée sur une base ethnique, ces jeunes recrues d'entre les deux guerres étaient souvent impressionnés, sinon attirés, par la révolution russe. Ce fut le cas de Kenyatta, qui, grâce à l'aide financière du romancier communiste trinidadien George Padmore, parti étudier à l'Université des Travailleurs de l'Est à Moscou, ce qui lui valut la réputation imméritée d'être un « communiste », entre guillemets. De retour au Kenya, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il participa au lancement de la Fédération panafricaine du Ghanéen Kwame Nkrumah, avant de prendre la tête de l'Union africaine du Kenya, KAU, fondée peu auparavant par un politicien populiste Kikuyu, Tom Mboya, et un militant Luo, favorable à une alliance de l'Afrique avec le bloc soviétique, Oginga Odinga, père du Raila Odinga d'aujourd'hui. Dès la fin des années 40, il était clair que l'ambition de Kenyatta était d'être le porte-parole des intérêts de la bourgeoisie loyaliste. On le vit par exemple en 1947, lorsqu'invité à exprimer sa solidarité à des milliers de grévistes du syndicat des ouvriers africains de Mombasa, après l'arrestation de la direction du syndicat par les Britanniques, Kenyatta recommanda aux ouvriers de renoncer à la grève et de se soumettre aux procédures d'arbitrage exigées par les autorités coloniales afin de ne, citation, pas gêner les affaires. Kenyatta n'en passa pas moins 9 ans dans les geôles britanniques sous l'accusation de sympathie envers les Mau Mau. En fait, cette accusation n'était que pure invention de la part des services spéciaux anglais. D'ailleurs, Kenyatta n'avait jamais manqué une occasion de se démarquer publiquement des Mau Mau en les décrivant comme des voyous. Néanmoins, lorsque les autorités lui rendirent sa liberté en 1961, un an après la fin de l'état de siège, Kenyatta apparut à la fois comme celui qui avait su résister sans faillir à la puissance coloniale durant toute la durée de l'état de siège, et en même temps comme un leader reconnu de la bourgeoisie loyaliste, puisque l'un des deux partis de cette bourgeoisie, le KANU, Union africaine nationale du Kenya, l'avait élu à sa tête avant même sa libération. Et c'est pour ces deux raisons que ce fut Kenyatta qui, à la tête d'une bande de politiciens anti-Mau Mau modérés, fut chargé de garantir à la puissance colonisatrice qu'elle pourrait transmettre le pouvoir à la bourgeoisie africaine en toute tranquillité. Pour cela, encore fallait-il éradiquer, autant que possible, jusqu'au souvenir de la révolte des Mau Mau dans la conscience collective de la population kényane. Aussi, lors de son intronisation comme premier chef d'État du Kenya, lors de la cérémonie d'indépendance du 12 décembre 1963, Kenyatta adjura le peuple kényan d'oublier purement et simplement le combat des Mau Mau pour la liberté, attitude qu'il devait résumer plus tard dans l'un de ses ouvrages en présentant les Mau Mau comme, citation, « une maladie qu'on a éradiquée et que l'on doit oublier pour toujours ». Fin de citation. L'insurrection Mau Mau avait sans doute montré ses limites nationalistes et en particulier son incapacité à élargir son horizon politique au-delà d'une guérilla menée contre les auxiliaires africains de la colonisation. Et cela l'avait empêché de prendre en compte le bouillonnement de révolte qui se faisait jour alors aux quatre coins de l'Afrique colonisée et dont la jonction aurait pu doter les masses pauvres africaines d'un formidable levier politique et social. La seule idée que les masses pauvres puissent reprendre les armes un jour avait déjà de quoi la faire frémir. Mais ce qui la terrifiait plus que tout, c'était le caractère social qu'avait pris le soulèvement Mau Mau, et en particulier la force potentielle de la classe ouvrière kényane qui s'était manifestée concurremment à ce mouvement. Les autorités coloniales mirent d'ailleurs tout en œuvre pour réduire ce potentiel, en particulier en détruisant les organisations dont s'étaient dotés les travailleurs, dont les responsables se virent infliger de lourdes peines de prison. Par le jeu des déplacements forcés de population les autorités anglaises vidèrent les quartiers ouvriers qu'elles avaient quadrillés de leurs éléments les plus conscients, majoritairement Kikuyu, qui furent envoyés dans des zones rurales pour être remplacés par des ruraux d'ethnie Luo ou autres. Ainsi, la puissance coloniale planta-t-elle délibérément la semence de ce qu'elle espérait bien voir devenir un jour une source de division dans les rangs de la classe ouvrière kényane. Restait pour la Grande-Bretagne à obtenir l'assentiment des grandes puissances impérialistes et surtout de l'impérialisme américain à sa politique de désengagement au Kenya. Cela n'alla pas sans mal. La guerre froide battait son plein et le Kenya était entouré d'États dont les dirigeants jouaient la carte, sinon de l'alliance avec le bloc soviétique, tout au moins celle du non-alignement aux grandes dames de Washington. Kenyatta traînait encore derrière lui, tout au moins aux yeux de la CIA, sa réputation de communiste. Mais il sut faire ce qu'il fallait pour calmer les craintes de Washington et attirer ses faveurs. Contre toute attente, il s'affirma d'emblée comme un chaud partisan d'une alliance avec l'Ouest. Et il passa de la parole aux actes en invitant les anciens fonctionnaires britanniques à conserver leur place et leurs privilèges. Mais surtout, à la première occasion qui se présenta, un mois à peine après l'indépendance du pays, il se tourna vers l'ancienne puissance coloniale en lui demandant son assistance militaire contre une rébellion dans les rangs de la minorité somalie, puis contre une mutinerie dans l'armée kényane elle-même à Nairobi. À partir de ce moment, un contingent de l'armée britannique resta stationné en permanence au Kenya et le régime de Kenyatta devint l'enfant chéri de l'impérialisme qui, du coup, lui passa bien des choses. On ne parla guère dans les capitales occidentales du caractère de plus en plus dictatorial du régime de Nairobi, ni du régime de parti unique qui y fut institué, ni des rapines auxquelles il se livrait une poignée de ses dignitaires pour s'enrichir aux dépens de la population. Kenyatta, comme ceux qui le suivirent à la tête du régime, bénéficièrent tous de la même complaisance que l'impérialisme réserve sur tous les continents à ses hommes de main. La mafia au pouvoir. Pour Kenyatta, ce qui restait de la tradition Mau Mau et de l'esprit de rébellion qui y était associé parmi les masses pauvres continuait à constituer une menace pour la faible bourgeoisie kényane. Aussi, Kenyatta organisa-t-il l'élimination de tous les dissidents, en particulier de gauche, qu'il les fit assassiner ou bien juste torturer et jeter en prison sans autre forme de procès. Mais pire encore, cette période de l'histoire du Kenya, du développement du soulèvement des Mau Mau à la consolidation du régime de Kenyatta, planta le décor d'une tragédie qui ne cessa de se jouer et de se rejouer par la suite au fil des décennies et que l'on a vu de nouveau à l'œuvre au cours de ces derniers mois. Kenyatta encouragea les fermiers blancs à ne pas partir tout en offrant des conditions plus qu'avantageuses à ceux qui le souhaitaient et nombre d'entre eux en profitèrent. Mais ce ne furent pas les paysans sans terre qui bénéficièrent des terres ainsi libérées, ce furent la famille de Kenyatta et son clan politique. Quant aux propriétaires fonciers loyalistes, non seulement ils purent conserver les terres qu'ils avaient reçues à titre de récompense des Anglais dans les réserves, mais ils se virent octroyer des pouvoirs administratifs locaux. De ce fait, la soif de terre des Kikuyu pauvres resta inassouvie. La seule façon pour eux de s'en procurer devint, s'ils en avaient les moyens, d'en acheter ou d'en louer dans des régions qui étaient traditionnellement habitées par d'autres ethnies, Kalenjin, Maasai, Luo ou autres. De là naquit la légende, toujours bien vivace aujourd'hui, selon laquelle les Kikuyu auraient acquis leurs terres en dépossédant les autres ethnies. Ainsi arriva-t-on, à l'issue de cette période, à une situation paradoxale où l'idée d'une hégémonie et de privilèges monopolisés par les Kikuyu s'appuyait sur l'existence d'une couche infime de possédants accaparant toutes les richesses et tous les pouvoirs que les colonisateurs avaient recrutés artificiellement dans les rangs Kikuyu. et le fait que l'écrasante majorité des Kikuyu continuait à vivre dans la même pauvreté que le reste de la population kényane ne les empêchait pas d'être accusés d'avoir spolié les autres ethnies de leurs terres. Lorsque Kenyatta décéda en 1978, son vice-président Daniel Arap Moi le remplaça sans soulever la moindre opposition et entama un règne qui devait durer 24 ans. Ce fut sous le régime de Moy que les grandes entreprises britanniques et américaines commencèrent à prendre le contrôle de l'agro-business kényan et à le développer, les fleurs, le thé, le café et la canne à sucre, ce qui obligea le régime à importer du maïs d'Afrique du Sud et des États-Unis. La crise agricole qui s'ensuivit, exacerbée par une période de sécheresse, amena les opposants du régime à tenter leur chance dans une tentative manquée de coup d'État militaire en 1982. Parmi les participants à ce coup d'État se trouvait un jeune intellectuel, fraîchement émoulu d'une université d'Allemagne de l'Est, du nom de Raila Odinga. Cette aventure devait lui valoir un total de 9 années dans les geôles de Moy. Cela n'empêcha pas Raila Odinga d'offrir son soutien à Moy après sa réélection en 1997, ni Moy d'admettre Raila Odinga au sein du KANU peu après, et même de lui offrir le poste de secrétaire général ainsi que le portefeuille de ministre de l'Énergie. Contrairement à la plupart des dignitaires du régime, Moy était né dans une famille de l'ethnie Kalenjin et il s'en servit avec des résultats qui, par bien des côtés, furent encore plus terribles que les affrontements de ces derniers mois. Lors de la préparation des élections de 1992, il ordonna à sa garde prétorienne, baptisée par euphémisme « Unité d'utilité générale » ou GSU, d'organiser des pogroms contre des immigrants Luyas, Luos et Kikuyus qui étaient allés s'installer dans la vallée du Rift. Ces pogroms firent officiellement 1500 morts. Lors des élections de 1997, le GSU reçut l'ordre d'étendre ses opérations dans certaines régions côtières en particulier, et le bilan s'alourdit, atteignant 2000 morts. Ces pogroms continuèrent après les élections et pendant plusieurs mois en 1998, mais cette fois pour punir des communautés Kikuyu qui, selon Moy, n'avaient pas voté correctement. Lorsque Moy fut finalement écarté, il avait perdu tout crédit dans la population et était l'objet d'une haine féroce de la part d'une majorité d'entre elles. Cela ne l'empêche pas encore aujourd'hui de poursuivre une vie de luxe à peine troublée par les innombrables enquêtes pour corruption dont il est l'objet. Le moins que l'on puisse dire de la scène politique kényane et de ses institutions, qui n'ont guère changé depuis qu'elles ont été façonnées par la décolonisation, et qu'elles sont marquées par la pire des corruptions. Le cas de Kibaki est typique à cet égard. Ancien professeur d'université, il a siégé au gouvernement sous Kenyatta dès sa première élection sur les listes du KANU en 1963. Il occupa divers postes, puis fut promu à la vice-présidence sous Moy, tout en conservant son portefeuille des finances. Il conserva cette position jusqu'au jour de 1988 où il cessa d'être dans les bonnes grâces de Moy et fut relégué au ministère de la Santé. Lorsque Moy ouvrit les vannes du multipartisme en 1991, Kibaki quitta le KANU pour créer son propre parti et se présenter sans succès à l'élection présidentielle de 1992 contre Moy, puis une nouvelle fois, toujours en vain, en 1997, jusqu'à ce qu'il l'emporte finalement en 2002. On dit de Kibaki qu'il est l'un des hommes les plus riches du Kenya, mais il est difficile de trouver des chiffres sur sa fortune personnelle, qui n'est certainement pas dans une banque kenyane. D'origine modeste, il a acquis tous ses avoirs alors qu'il était au pouvoir, et il y a peu de chances que sa fortune résulte d'investissements astucieux effectués avec son salaire officiel. Quant à Raila Odinga, bien que certains de ses adversaires l'aient décrit comme un communiste, était-ce parce que l'une de ses promesses a été d'introduire un système d'aide sociale pour les pauvres, ou bien à cause du passé tumultueux de son père ? Il semble encore plus riche, avec une fortune personnelle évaluée à 11 millions d'euros. Une partie de cette fortune lui vient de son entreprise d'hydrocarbures, la Pan African Petroleum Company, qu'il acquit comme par hasard alors qu'il était ministre de l'énergie de Daniel Arap Moi. L'empire familial des Odinga est regroupé au sein de Spectre International, qui acquit une entreprise de molasses lors de sa privatisation sous Moi et dont il revendit 55% des actions à un groupe canadien en faisant un bénéfice modique de 1600%. Depuis, grâce aux investissements canadiens, cette usine, dans laquelle la famille Odinga conserve 45% des parts, est devenue l'une des plus importantes du Kenya. Le caractère mafieux de sa vie politique n'empêcha pas le Kenya, après avoir été un bastion de l'anticommunisme pendant la guerre froide, de devenir un bastion de la guerre contre le terrorisme de Bush, en même temps que le représentant semi-officiel de Washington dans les tentatives de règlement politique des conflits régionaux, que ce soit en Ouganda, au Soudan ou en Somalie. Ce n'est pas par hasard si l'attentat contre l'ambassade des USA à Nairobi a été l'un des tout premiers revendiqués par Ben Laden. Le régime kényan ne fait-il pas figure d'agent stipendié de l'impérialisme dans la région ? Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les événements qui ont suivi les élections de décembre dernier au Kenya aient entraîné un tel défilé de grands noms de la diplomatie régionale et internationale dans la capitale kényane, sans commune mesure avec ce que l'on a pu voir à l'occasion d'événements similaires en Côte d'Ivoire, par exemple. Non pas que le sang versé dans les émeutes ait ému les capitales occidentales. Ce qui a ému l'Occident, c'est la peur que l'instabilité politique qui se développait au Kenya fasse perdre à ce pays la faculté de jouer son rôle de pilier régional de l'impérialisme. Partenaires puis rivaux. Normalement, Raila Odinga aurait dû prendre la suite de Moi en tant que candidat du KANU à l'élection présidentielle de 2002, Moi ne pouvant pas briguer légalement un nouveau mandat. Mais Moi se choisit un autre successeur, considérant sans doute qu'Odinga ne le laisserait pas continuer à tirer les ficelles du pouvoir de sa retraite forcée. C'est ce choix qui amena Odinga à prendre la tête d'une scission du KANU qui, avec d'autres opposants, forma la Coalition Nationale Arc-en-Ciel, NARC. Mais au lieu d'Odinga, celle-ci choisit Kibaki comme candidat, qui fut élu par une large majorité. Kibaki, ayant fait de la lutte contre la corruption l'un des axes de sa campagne présidentielle, l'année suivante, il nomma John Gitongo, directeur de la section kényane de l'ONG Anticorruption Transparence Internationale, pour faire la chasse à la corruption. Mais en 2005, Gitongo s'exila en Angleterre, expliquant qu'après avoir découvert une série de contrats bidons ayant permis à des amis de Kibaki de s'approprier des millions de dollars aux dépens de l'État, il craignait pour sa propre vie. La même année, l'alliance Odinga-Kibaki fut rompue sur le texte d'une nouvelle constitution que Kibaki entendait soumettre à référendum. Il faut dire que c'était un texte pour le moins réactionnaire qui renforçait la centralisation du pouvoir. Il enlevait aux responsables locaux le droit d'attribuer des parcelles de terre, créait des tribunaux chrétiens, les tribunaux musulmans existent déjà, interdisait les partis régionaux et rendait l'avortement illégal, quel qu'en soit le motif. En prime, par pure démagogie, il interdisait aux étrangers de posséder des terres et prévoyait l'élection de tous les responsables locaux. Ce texte entraîna la défection de 7 des ministres de Kibaki, ou tout au moins c'est le prétexte qu'ils fournirent pour rejoindre l'opposition, y compris Raila Odinga. Et ils entreprirent de faire campagne pour le non, qui qui l'emporta par plus d'un million de voix, avec 46% d'abstention. De toute évidence, nombre d'électeurs avaient saisi cette occasion pour censurer le régime de Kibaki. Odinga et un certain nombre de partisans du non décidèrent alors de créer un nouveau parti, le Mouvement démocratique orange, ODM. Peut-être s'agissait-il d'une référence à la couleur de l'orange, symbole du non dans le référendum, ou bien à la révolution orange en Ukraine, ou peut-être aux deux. Odinga obtint le ralliement de William Ruto, un politicien Kalenjin de la vallée du Rift, et celui de l'ancien vice-président Musalia Mudavadi de la province de l'Ouest, ce qui eut une certaine importance car c'est dans ces deux régions que l'ODM obtint le gros de ses voix lors des élections de 2007. L'un et l'autre n'en étaient pas moins des individus plutôt douteux. Ruto, un ancien leader de l'organisation de jeunesse du KANU, était l'objet de poursuites pour avoir détourné des sommes considérables aux dépens de l'État sous le régime de Moi. Quant à Mudavadi, il avait été ministre des Finances sous Moi à l'époque où son gouvernement avait été mêlé à un détournement de 7 millions d'euros des caisses de l'État dans le cadre de ce que l'on appela le scandale Goldenberg. Quant à l'ODM lui-même, c'était une tromperie qui ne présentait rien de nouveau ni de démocratique. Et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il ait eu bien des points communs avec le mouvement ukrainien pro-américain de la Révolution Orange, puisque le stratège électoral de l'ODM, un certain Dick Morris, avait été justement le maître d'œuvre de la stratégie médiatique du mouvement ukrainien pour le compte de l'administration américaine. Comme après le départ des dissidents, le nouveau gouvernement était principalement formé de Kikuyu, issus du clan de Kibaki, Odango eut au fait de le décrire comme la mafia du mont Kenya, et dans sa propagande, l'ODM commença à laisser entendre qu'il devenait nécessaire de mettre un terme à l'hégémonie Kikuyu sur l'économie du pays. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles la question du fédéralisme devint l'un des points centraux de cette dernière campagne. L'ODM argumenta que c'était la seule façon de mettre fin à l'injustice et à la pauvreté que subissaient les autres provinces par rapport au centre du pays, auquel la domination Kikuyu garantissait de meilleurs équipements. Dans les faits, il s'agissait d'un appel à un fédéralisme à base ethnique qui ne pouvait qu'impliquer l'organisation de violences ethniques et l'expulsion des ethnies étrangères, entre guillemets, hors des territoires qu'elles avaient occupés, entre guillemets. Et tout cela uniquement pour permettre à une faction politicienne de défendre ses intérêts particuliers face à une autre faction politicienne. L'ODM s'assura que les ressentiments de la population, enflammés par des relents d'ethnisme, bouillonneraient sous la surface au moment du vote, dans l'espoir d'influer sur son résultat. Et ils ont sans doute influé sur les résultats, mais surtout, ils ont déterminé l'explosion qui s'est produite à partir du 30 décembre et les flots de sang qui en ont résulté. La préparation d'un désastre. La période qui précéda les élections du 27 décembre avait été relativement calme, ce qui est plutôt rare. C'est après que les troubles commencèrent. La cause immédiate en fut évidemment la fraude manifeste dans l'élection présidentielle, et le fait que Kibaki ait décidé de prêter serment sans attendre, alors que les rues commençaient déjà à se remplir d'émeutiers et que la liste des morts commençait à s'allonger, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Les résultats officiels, publiés par la commission électorale, donnèrent à Kibaki 4 578 034 voix, contre 4 352 860 à Odinga. Or, dans 72 des 210 circonscriptions parlementaires, les chiffres publiés par les responsables locaux donnaient de bien meilleurs résultats à Odinga que ceux publiés plus tard par la commission électorale à Nairobi, avec des différences allant de 10 à 30 000 voix. tout se passait comme si le nombre des voix de Kibaki avait augmenté de quelques dizaines de milliers au cours du trajet entre la circonscription et la capitale, juste assez apparemment pour que, en répétant le fait dans chaque circonscription, cela permette à Kibaki d'arriver en tête, mais pas trop, de façon à ce que le résultat rende un son quand même crédible. Le président de la commission électorale dut admettre, citation, « Je ne sais pas qui a remporté cette élection, et je ne le saurai pas tant que je n'aurai pas vu les relevés de dépouillement originaux, ce que je ne peux pas faire tant que les tribunaux ne m'y ont pas autorisé. » Fin de citation. Cela étant, l'ODM avait déjà remporté une victoire décisive sur tous les autres partis dans le cadre des élections parlementaires qui se tenaient en même temps. Sur les 210 sièges à pourvoir, l'ODM en avait obtenu 99 contre 43 pour le PNU de Kibaki, 16 pour l'ODM Kenya, une scission de l'ODM, et 14 pour le KANU, le vieux parti unique. L'ODM n'avait sans doute pas tout à fait assez pour gouverner contre tous les autres partis, mais il y avait assez de petites formations en mal d'une bribe de pouvoir pour qu'il lui soit facile de former une coalition lui permettant d'atteindre la barre des 106 sièges, lui assurant la majorité absolue. Le contraste entre les résultats des deux élections rendait la fraude dans l'élection présidentielle d'autant plus flagrante, et l'annonce de la victoire de Kibaki suffit à mettre immédiatement le feu aux poudres. Dans les centres urbains, et en particulier dans les taudis de Nairobi, on pouvait penser au début que les partisans d'Odinga s'en prenaient à ceux de Kibaki pour exprimer leur frustration d'être privés du changement social auquel ils aspiraient, même si attendre un quelconque changement de l'ODM était une illusion. Mais il ne fallut pas longtemps pour que les affrontements prennent un contenu ethnique. Les Kikuyu furent pris à partie comme s'ils étaient des supporters naturels de Kibaki, parce que la propagande électorale de l'opposition avait accusé Kibaki de favoriser les Kikuyu. Au-delà des sympathies politiques, comme l'ODM avait fait en sorte d'apparaître comme le porte-parole d'une alliance entre les Luos et les Kalenjins, qui visait à combattre les « privilèges » entre guillemets des Kikuyu, cela permit aux nervis en mal de pogrom de convaincre les Luos de s'en prendre aux Kikuyu. De sorte que bon nombre de Kikuyu durent fuir les bidonvilles de Nairobi, tandis que leurs taudis ou leurs boutiques étaient en feu. Dans la vallée du Rift, ce furent les gangs Kalenjins qui s'attaquèrent aux fermiers Kikuyu. Mais là, tout indique que les violences furent bien plus organisées, destiné avant tout à régler de vieux comptes liés au problème de la terre dont les Kalenjin accusaient les Kikuyu de les avoir spoliés. Ainsi, les 35 femmes et enfants qui furent brûlés vifs dans une église à Eldoret appartenaient à des familles de fermiers Kikuyu et s'étaient réfugiés là pour échapper aux machettes de « guerriers » entre guillemets Kalenjins dont l'expédition avait été préparée par des notables locaux. Il ne fallut ensuite que quelques jours pour que les affrontements gagnent l'ensemble des provinces centrales et de l'ouest du pays. En fait, on peut dire que l'ODM avait pour ainsi dire écrit par avance le script de la tragédie qui allait se dérouler. Avant les élections, Odinga avait prédit qu'elle serait truquée et il avait fait en sorte que cette prédiction soit très largement reprise par les médias. Bien sûr, tout le monde s'attend à un certain degré de trucage au Kenya. Mais tout indique que l'ODM avait préparé par avance des démonstrations de force, sous prétexte de faire s'exprimer la « volonté du peuple », entre guillemets, de façon à permettre à Odinga de s'emparer du pouvoir indépendamment du résultat de l'élection. C'est ainsi qu'à Eldoret, trois policiers furent lynchés par des bandes de jeunes avant même l'ouverture du scrutin, parce qu'on les accusait d'être venus dans le but de truquer le scrutin en faveur de Kibaki. Il ne faut donc pas s'étonner que la seule annonce de la victoire de Kibaki ait suffi à faire déborder immédiatement une marmite de lave déjà chauffée à blanc, que les émeutes aient aussi rapidement pris la forme d'affrontements interethniques et que le sang ait commencé à couler aussitôt. Le coût exorbitant du parasitisme politicien. Malgré les événements de ces derniers mois, et surtout depuis que Kibaki et Odinga se sont formellement raccommodés, le régime kényan continue à être cité en exemple par les dirigeants impérialistes comme celui d'un pays en voie de développement, mais ça dépend pour qui, dans lequel le multipartisme aura été une réussite et un modèle édifiant de démocratie. Mais quelle est la signification d'un tel multipartisme ? Dans lequel les mêmes politiciens n'en finissent plus de se recycler d'un parti dans un autre. La population kényane est-elle supposée oublier que les deux rivaux d'hier sont coutumiers de volte-face comme celle d'aujourd'hui, eux qui sont sortis du même sérail, celui du dictateur Daniel Arap Moi, avant de s'allier contre Moi pour bloquer sa tentative de faire élire le successeur qu'il s'était lui-même choisi en 2002. S'en suivirent 3 ans où Odinga fut ministre des Travaux publics et du Logement sous son allié Kibaki, pour finalement passer en dissidence en 2005 avec le soutien discret de l'ancien dictateur Arap Moi, retraité mais toujours actif, tandis que l'ancien rival d'Odinga, Uhuru Kenyatta, rejoignait l'ODM qu'Odinga venait de créer. Et voilà que pour finir, aujourd'hui, tout ce beau monde se retrouve sous un même toit, jusqu'à la prochaine rupture. Autant dire que, dans le chassé-croisé d'alliances et de ruptures qui constitue la vie politique kényane, toutes les combinaisons sont permises. Un tel chassé-croisé n'aurait sans doute rien d'exceptionnel, y compris dans les pays dits démocratiques, s'il ne se doublait pas d'une manipulation démagogique éhontée des frustrations des masses pauvres, conjuguée à l'utilisation de l'ethnisme comme moyen de pression entre rivaux, avec pour résultat les confrontations qui ont marqué toutes les élections depuis l'indépendance du Kenya et en fait bien d'autres événements dans sa vie politique. C'est avec la peau des autres, et surtout celle des pauvres, que les politiciens de ce multipartisme, si cher à l'impérialisme, jouent depuis un demi-siècle. Que réserve l'avenir à la population kényane ? Un premier test sera fourni par ce qui se passera lors du retour des 300 000 réfugiés. Le régime saura-t-il et aura-t-il la volonté politique de retenir les nervis qu'il a lâchés ces derniers mois ? Et qu'en sera-t-il des nervis qui ne reconnaissent pas son autorité, ni aucune autorité d'ailleurs, parce que leur seul ressort est le cynisme et la haine que leur inspire leur extrême pauvreté ? Or, de tels individus existent et certains sont même armés et organisés. Parmi eux, il y a la secte chrétienne des Mungikis, dont les membres se recrutent parmi la jeunesse des bidonvilles les plus pauvres et qui survivent en grande partie grâce aux raquettes de la population. Parce qu'elle n'est pas recrutée sur une base ethnique, cette secte a fourni des nervis à tous les politiciens en mal de gros bras et ils ont joué un rôle à ce titre dans les affrontements récents. C'est d'ailleurs grâce à ce rôle d'exécuteur des basses œuvres de la classe politique que la secte a pris de l'importance au cours des 2 dernières décennies. Mais du coup, certains de ces leaders ont fini par concevoir des ambitions politiques. L'un d'entre eux, Maina Njenga, est actuellement en prison, officiellement pour port d'armes, mais en fait parce qu'il prétendait, au nom des services rendus dans le passé à Kibaki, se présenter aux dernières élections dans une circonscription située dans le précaré de ce dernier. Et aujourd'hui, ce sont les Mungikis qui organisent des émeutes armées dans les grandes villes du pays pour obtenir la libération de leurs leaders, autant que pour affirmer leur existence politique. Qui peut dire à qui les Mungikis vendront leurs services de main ou quelle politique ils choisiront de mener pour défendre ce qu'ils considèrent comme leurs propres intérêts, sinon que ce sera forcément aux dépens de la population pauvre. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que face au parasitisme sanglant des politiciens, à celui de la bourgeoisie kényane comme à celui de l'impérialisme, le prolétariat kényan a besoin d'un parti qui soit l'expression de ses intérêts politiques et sociaux, ce que jamais aucun des nombreux partis qui se sont succédés sur la scène politique n'a été. Seul un tel parti aurait les moyens de constituer un pare-feu efficace à l'utilisation de l'ethnisme par les politiciens en unifiant les rangs des masses pauvres autour de la lutte pour un avenir enfin débarrassé de cette violence fratricide de la pauvreté qui l'alimente et du capitalisme qui en est la cause. 20 avril 2008.